Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Si je vous parle du contre de Batum, de France-Suisse, de la demi Nadal Joko à Roland-Garros, du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi ou encore de France All Blacks, ces moments de sport nous ont et vous ont aussi certainement marqué en 2021. Quel est le meilleur, celui qui vous a procuré le plus d'émotion? Difficile de se prononcer et de n'en choisir qu'un, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand moment de sport de l'année pour m'accompagner. Plusieurs journalistes de la rédaction d'Eurosport, Maxime Dupuis, Cyril Morin, Laurent Vergne, Glenn Cellier, Louis Gilles et Simon Farbach. Salut à tous.
Salut Adrien.
Bonjour.
Il y a le gratin.
Exactement. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Spotify, Acast, Deezer. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, pour commencer en un mot, quel événement avez-vous choisi de défendre ? Glenn ?
Le contre de Nicolas Batum, évidemment, en demi-finale des Jeux Olympiques.
Simon ?
Je vais parler de Carsten Warholm et de son titre olympique assorti d'un record du monde.
Louis ?
Moi, pour ma part, je vais défendre la victoire brillante de l'équipe de France de rugby face aux All Blacks en novembre 40-25.
Maxime ?
Moi, je vais parler de 10 minutes de France-Suisse, mais pas celles qu'on pense, les 10 minutes de folie qui sont au milieu du match.
Laurent ?
Moi, ce sera la demi-finale de Roland-Garros en soirée, dans un contexte très particulier entre Novak Djokovic et Rafael Nadal.
Et Cyril ?
Moi, ce sera le titre olympique par équipe de l'équipe de France de judo à Tokyo.
Un beau programme, messieurs, nous attend. Évidemment, on parlera aussi d'autres moments qui nous ont marqués. Je pense à la Formule 1, je pense à plein d'autres moments. On aura le temps pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure de discuter de tout ça ensemble. On va commencer avec toi, Laurent, si tu le veux bien. Tu nous parlais de cette demi-finale magique, on peut le dire, entre Rafael Nadal et Novak Djokovic à Roland-Garros, dans l'antre du Mallorquin. Qui s'est fait battre ce soir-là par Novak Djokovic. Et je crois que tu étais dans les tribunes.
Oui, j'étais dans les tribunes et plus encore que le match, parce que je ne pense pas que ce soit le plus grand match qu'aient joué Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont, depuis maintenant une quinzaine d'années, laissé beaucoup de très, très grands moments de tennis derrière eux. C'était un très, très bon match. Il y a eu pour moi un immense set de tennis. C'était le troisième, qui dure, je crois, 92 minutes, plus d'une heure et demie. Et qui est vraiment extraordinaire d'intensité, de qualité aussi, et qui est le set décisif, hein, puisque Djokovic va le gagner pour prendre l'avantage. Et derrière, même si Nadal va breaker au début du quatrième, il n'avait plus assez d'essence dans le moteur pour rivaliser, pour s'en sortir en 5-7. Donc, c'est le moment décisif du match. Mais plus globalement, c'est tout le contexte de cette soirée. En fait, c'est une soirée extraordinaire, encore plus qu'un match extraordinaire. Et donc, pour moi, un match de tennis, comme n'importe quel événement sportif, il est indissociable de son contexte. Et là, le contexte, il faut le rappeler. Donc, ce sont les demi-finales de Roland-Garros. On est vendredi. Il y a les fameuses night sessions maintenant à Roland-Garros. Et ce jour-là, la première demi-finale qui oppose Alexander Zverev à Stefanos Tsitsipas démarre à une heure qu'on avait trouvée un petit peu tardive, et on s'était dit que potentiellement les organisateurs prenaient un risque parce qu'il y avait le fameux couvre-feu. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas de confinement, mais on n'était pas complètement libre non plus, et le couvre-feu était à 23h en France à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que les matchs terminent à 23h sous peine d'être contraint de se retrouver dans un contexte vraiment compliqué où il faut évacuer le stade. Il y avait à peu près 5000 personnes, puisqu'on était une jauge au tiers de la capacité. Et c'était ce qui s'était passé notamment à Rome, à l'Open d'Italie, quelques semaines plus tôt, où notamment pendant un match très chaud entre Sonego, l'Italien, et Dominic Thiem, il avait fallu évacuer le Foro Italico à 23h. Et potentiellement, sachant que les Nadal-Djokovic peuvent durer très très longtemps, et qu'en plus on a eu un match en 5-7 avant entre Zverev et Tsitsipas, ben, quand Nadal et Djoko ont commencé leur match, la crainte c'était que le public ne puisse pas voir cette rencontre jusqu'au bout. Et plus on a avancé dans la soirée, plus le public, tout le monde avait un œil sur l'heure, et avec ce troisième set complètement fou, bah on a senti qu'à 23h, ce serait impossible que le match serait fini. Et d'ailleurs, le troisième set s'est terminé à peu près à 23h. Et le public est vraiment devenu acteur de ce match parce qu'il a contribué à donner une certaine atmosphère, une certaine électricité, et que les joueurs ont forcément ressenti. Et donc voilà, il y a eu cette fameuse annonce, le public déjà qui criait à chaque changement de côté, on s'en ira pas. Et je ne sais pas comment il aurait été possible d'évacuer le cours Philippe Châtrier et le stade de Roland-Garros ce soir-là. Et je pense que la bonne décision a été prise, même si elle a fait un petit peu polémique, et la décision en accord avec les autorités, hein, ça s'est remonté directement à Matignon, et même, se dit-il, jusqu'à l'Élysée. Et il y a donc une dérogation qui a été accordée pour que le match puisse aller au bout avec du public. Et voilà, ce moment-là était très, très particulier. Moi, si ça reste un moment très fort, c'est parce que je pense qu'on vivra d'autres très, très grands matchs de tennis dans des très grosses ambiances. Mais cette atmosphère-là, en raison du contexte, était vraiment, à mon avis, unique. Et je pense que c'est ça qui lui donne tout son sel et toute sa force, et encore une fois, plus que le match en lui-même, même si c'était un moment de tennis très important, notamment pour Novak Djokovic, ça allait bien au-delà de ça pour moi.
Ouais, Novak Djokovic qui s'imposera du coup en 4-7, 6-2 hein, dans le quatrième. C'est vrai qu'on a cette image là, de Marc Maury, le speaker, qui prend la parole et qui dit « ça y est, vous pouvez rester, vous pouvez continuer à regarder le match ». Il y a même eu, je crois, des « merci Macron » qui sont descendus des tribunes.
C'est-à-dire, ouais, mais le truc, c'est que quand Marc Maury a pris le micro, les gens ont cru d'abord qu'il allait annoncer qu'il fallait quitter le stade. Donc, tout le monde a hué au point de couvrir la voix de Marc Maury. Donc, les gens n'ont pas entendu ce qu'il a dit dans un premier temps. Donc, il a dû répéter. Et il a commencé en disant « en accord avec les autorités ». Et les gens ont cru que ça allait être en accord avec les autorités. Il va falloir que vous partiez tous. Et en fait, c'était en accord avec les autorités. Vous êtes autorisés à rester. Et donc là, oui, effectivement, il y a même eu un début de Marseillaise. Hein. C'était vraiment une ambiance complètement
une ambiance fait. Électrique presque du US Open, en fait. De Night Session du US en Open fait, ouais. Qu'on ne connaissait pas du tout à Roland-Garros.
Moi, je vais compléter parce que j'étais là pendant le quart de finale entre Berrettini et Djoko, où justement la décision a été prise d'évacuer le public. Et là, pour le coup, c'était vraiment, on n'était pas sur la même dramaturgie du match, mais sur cette ambiance un peu crépusculaire qu'il y a à Roland à ce moment-là, ça donne tout de suite un cachet particulier au match. Donc là, c'était avec deux artistes en plus qui nous ont régalé, mais je me souviens très bien de ce quart de finale où ils avaient demandé aux gens de partir. Et c'est un carnage, tout le monde sifflait. Enfin, voilà. Là, sur ce match-là, je pense que personne n'avait envie de les voir partir. Et d'ailleurs, Djoko et Berrettini, après le quart, avaient dit c'est terrible parce que ça coupe un peu tout le monde dans son élan. Là, au-delà du tennis, l'ambiance qui était autour était absolument folle. Et c'était vraiment une bonne nouvelle que tout le monde puisse rester là.
Les grands moments de tennis, il y en a eu d'autres. Hein. On aurait pu en choisir. J'imagine, Laurent, tu as choisi ce moment parce que voilà, c'est particulier, c'est unique. On peut aussi citer quelques passages de Djoko quand même dans l'année, parce que Djoko qui a quand même fait une année incroyable. Moi, spontanément, il y a les larmes qui me viennent, sa finale perdue à l'US Open, juste avant le dernier jeu du match face à Medvedev. Il s'écroule et là, il y a un semblant d'humanité qui reprend le dessus.
Ouais, un semblant d'humanité.
Ah, c'est dur, là.
C'est joliment dit. Oui, un semblant d'humanité. Ouais. Oui, il a fait une année correcte, Novak Djokovic.
Ouais, plus que correcte.
Correct. Non, c'était oui, ces larmes, évidemment, c'est un moment très très fort. Mais je pense que même honnêtement, s'il avait fait le grand chelem, je pense que j'aurais quand même choisi la demi-finale de Roland-Garros, encore une fois, parce que je pense qu'on a vécu quelque chose d'absolument unique au-delà du côté sportif.
Ouais. Moi, ce que j'aimais, pour rebondir sur les larmes, moi, ça reste, quand on a proposé ce sujet de podcast, c'est peut-être la première image qui m'est venue. Parce que dans les larmes, cette finale de l'US Open, où évidemment il va manquer le grand chelem tant attendu, tant espéré, en fait, il y a toute, non pas l'humanité, mais toute la dimension mentale du sport, et surtout avec un joueur comme Djokovic, dont on dit que c'est un Stakhanovitch, il y a un côté robotique, c'est une machine à défendre. Et là, il craque sur sa chaise, il n'a plus sa raquette, il est sous sa serviette, il y a 20 000 spectateurs autour de lui, et je trouve que c'est un moment, presque un moment d'éternité. Alors, je pense que lui regrette le grand chelem, mais moi, je ne regrette pas de l'avoir vu, d'avoir vu cette scène-là, parce que c'est une scène tellement unique, dont on se souviendra aussi dans 20 ans peut-être, parce que là, il y a toute la dimension mentale du sport et du sportif qui ne s'arrête pas, on le dit souvent, mais là, on avait vraiment l'illustration parfaite, qui ne s'arrête pas aux jambes et aux bras.
Et puis, je pense que ce que Djokovic a vécu cet été, il y a peu de sportifs au monde, dans l'histoire du sport, qui l'ont vécu, c'est-à-dire le poids qui a été sur ses épaules. Mmh. Une fois qu'il a eu gagné Wimbledon, où il a donc ses trois grands chelems, on lui parle du Golden Slam, qui est évacué quand il perd aux Jeux Olympiques, puis du Grand Chelem. Et je pense que ce qu'il a dû supporter pendant toutes ces semaines-là, et notamment pendant la quinzaine de l'US Open, c'était vraiment très, très fort. Et Djokovic, c'est quelqu'un qui est très émotif. Et c'est quelqu'un qui contrôle en permanence ses émotions. On sait que la cocotte minute, elle explose parfois sous différentes formes. On l'a vu à plusieurs reprises dans sa carrière. Et là, oui, je pense que c'est la digue qui craque, qui cède. Et il y a plus rien qui retient ce qu'il vit à ce moment-là. Mais je pense que lui, ça restera un mauvais souvenir sportif. Mais il l'a dit d'ailleurs depuis que ce qu'il a vécu ce soir-là, notamment dans son rapport au public, dans l'affection que le public a pu lui renvoyer à ce moment-là, ça restera quelque chose de très fort pour lui.
Ouais, il n'a pas ramené de New York ce qu'il espérait, mais il a trouvé autre chose qui était complètement inimaginable avant le match, en fait. Vis-à-vis du public.
On change de sport, messieurs, pour évoquer un autre moment marquant. On avance un peu dans le temps. On va aller au 28 juin, huitième de finale de l'Euro, France-Suisse. Et là, Maxime aussi, tu es dans les tribunes et tu vas nous parler, alors peut-être pas du moment qu'on attend.
Enfin, il en fait part.
En tout cas, ils sont assez incroyables.
En fait, pourquoi j'ai choisi ce moment-là? Parce que, alors, comme Laurent, il disait que c'est peut-être pas le plus grand Djoko Nadal, il y a d'autres matchs incroyables et il y a d'autres matchs de football qui étaient bien plus marquants. Mais c'est ce que j'ai ressenti moi aussi des tribunes du stade de Bucarest, c'est-à-dire qu'une espèce d'ambivalence et l'impression d'avoir vécu le meilleur et le pire dans la même rencontre. En fait, quand je réfléchis à tout ce que j'ai vécu auparavant dans les tribunes, dans ma vie de journaliste, c'est souvent marqué, vous avez souvent ou quelque chose, un très, 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 très bon souvenir, comme France-Allemagne en 2016, un très, très mauvais, ça, mais les deux en même temps, et dans une soirée aussi paradoxale, c'est assez rare. Et ce qui est étonnant, c'est quand Didier Deschamps, depuis l'élimination, il a son langage sur ses éléments de langage sur les 10 dernières minutes, il se cache toujours derrière ça en disant les 10 dernières minutes, c'est des minutes d'égarement, d'absence. Or, les vraies 10 minutes qui ne sont pas dans le ton de l'Euro, c'est pas celle-là. C'est celle qui se passe entre l'arrêt du pénalty de Loris et le doublé de Benzema. Parce que l'équipe de France est une équipe sans fil conducteur pendant tout l'Euro. Et finalement, ce qu'elle récolte à la fin et ce qu'elle avait semé depuis le début de la compétition après l'Allemagne. Ce match-là, il est particulier aussi parce que de ce France-Suisse-là, on n'attend pas grand-chose. La France est quand même sortie première de son groupe. Elle a plein de blessés. Didier Deschamps doit bricoler sur les côtés, notamment mettre Rabiot à gauche de sa défense à 5. Mais on se dit que la Suisse, ça va passer, qu'il n'y aura pas trop d'émotion. Et l'émotion, on l'attend pour le quart final où attend normalement l'Espagne à Saint-Pétersbourg. Or, cette soirée-là, elle va être particulière parce que justement, Didier Deschamps s'est planté. Il a mis sa défense à 3 parce que, un, il n'avait pas trop le choix. Deux, il a voulu faire un effet miroir par rapport aux Suisses. Et dès le début, ça va mal. L'Anglais se fait prendre sur le marquage avec Seferovic, l'Anglais qui ne survivra pas une mi-temps au match. Et on se dit que l'équipe de France s'est mal barrée dès la 52e minute quand Pavard vient faire cette faute assez stupide dans la surface. Pénalty. Loris n'a plus arrêté un pénalty depuis quasiment 10 ans en équipe de France et Espagne-France à Madrid. Et puis là, moment, j'allais dire, d'éternité pour Loris, il va sortir le pénalty. Il sort plutôt bien d'ailleurs sur sa droite. Et d'un seul coup, on sent tout de suite que ça bascule déjà dans le stade parce que le stade n'est pas plein parce qu'il y a encore des jauges, notamment en Roumanie. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il suffit de voir Loris qui serre le poing, qui devient un peu... qui est beaucoup plus expansif que d'habitude. Et puis arrive évidemment le doublé de Benzema en 2 minutes. Et c'est marrant parce qu'avec le recul, on a oublié, finalement, on a beaucoup dit que le trio ne fonctionnait pas pendant l'Euro. Or, sur les deux actions, il y a deux formidables actions des trois hommes qui sont sur les deux buts et qui vont amener ceux de 1. Et là, on a un moment où on ne sait plus très bien ce qui se passe, tout simplement, parce qu'on est passé du pire en se disant on est à 2-0, c'est terminé, on ferme la boutique. Et en quasiment 7 minutes, la France est passée devant. Et puis après, il y aura le 3-1. Et puis après, il y aura les fameuses 10 minutes dont part Didier Deschamps et une séance de tir au but. Voilà, donc c'est étonnant parce que moi, j'étais embêté. Je me souviens, le papier qu'on écrivait, Je cherchais un titre parce que je ne savais pas comment résumer ça. Et en fait, il me semble que j'avais titré quelque chose comme « Immense soirée, monumental fiasco », voilà. Pour dire qu'on est dans quelque chose de catastrophique, mais c'est quand même une histoire, une soirée qui reste. Alors c'est marrant, ça n'a pas l'intensité dramatique et le niveau de France RFA 82, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça, et à un moment de se dire, bon, bah, ils y sont. En plus, il y a le score qui est le même, évidemment, ce n'est pas le même adversaire en face, et ce qui rend le fiasco terrible, c'est que c'est la Suisse, c'est l'équipe de France, c'est championne du monde. Mais il y a ce côté vraiment ambivalence des sentiments, où quand on sort de ça, on ne sait plus très bien ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a vécu une formidable soirée ou c'est une immense déception? Et c'est un peu les deux. Et c'est vraiment ce qui fait le sel de cette soirée.
Ouais, pour rebondir avec... moi, je couvrais aussi depuis la France ce match. Je pense qu'on a tous eu le même... C'est-à-dire, après les 10 minutes de folie des Bleus, on se dit, ils sont touchés par la grâce. Rien ne peut leur arriver. On va être champion d'Europe. Il y a eu un truc un petit peu comme ça qui s'est dessiné, en tout cas dans mon esprit. En fait, on est invulnérable parce que, bah, regardez les individualités qu'on a. On a besoin de 10 minutes pour mettre au pas n'importe quel adversaire. Et à ce moment-là, moi, j'ai l'impression qu'on a déjà l'euro gagné. C'est une fausse impression, évidemment. Mais il y a quand même cette idée-là qui se dessine. Et le chaos émotionnel provoqué par l'élimination, c'est vraiment des montagnes russes. Parce que moi, je me souviens d'avoir terminé la soirée vraiment sonné et me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était un petit peu sur les mêmes standards que le soir de la remontada, sur la soirée où tout a déraillé, rien n'était prévu et on est vidé émotionnellement parce qu'on est passé par 10 000 états. Et ouais, non, franchement, c'était un souvenir marquant. Ce n'était pas forcément un bon souvenir, mais un souvenir marquant. Ouais.
Et Laurent parlait de l'horaire tout à l'heure de Djoko Nadal. Le match en Roumanie commence à 22 heures. Alors, ça change quelque chose si l'atmosphère. Je ne saurais pas l'expliquer exactement, mais vous êtes déjà passé dans une autre ambiance très tardive. Et quand Mbappé va rater son pénalty, il doit être, je ne sais plus, minuit 45, enfin, c'est vraiment très tard. Et moi, c'est l'autre image marquante. C'est terrible, c'est de voir Mbappé s'avancer. C'est face au Cop Suisse. Et là, il se prend une bordée de sifflets. Et enfin, je dis à mon collègue Martin, je lui dis, je pense que c'est terminé. Voilà. Parce qu'il y a tout va dans ce sens-là. Et on sent que ça a complètement basculé. Et ça rend peut-être que l'histoire... Alors,
tu veux dire que tu avais prévu que Mbappé raterait son penalty?
Ah oui, ça se sentait. Ouais. Mais ça sentait, bon, ça sentait faut, la suite de l'histoire.
Il faut quand même savoir, pour ceux qui nous écoutent, que Maxime Dupuis a une stratégie dans les séances de tir au but, c'est qu'il annonce l'échec du joueur qui va frapper à chaque fois.
Non.
Et quand il le rate vraiment, je vous l'avais dit.
Non, j'annonce l'arrêt du gardien.
L'arrêt du gardien.
Voilà, plus souvent. Ouais. Non, mais là, mais ce qu'il y a dans l'histoire, c'est que ça se sentait un peu parce qu'on sent son euro n'est pas réussi. Il s'avance et il part presque à l'abattoir finalement. Et on se dit que s'il le rate, ce ne serait pas étonnant et ce serait presque la conclusion imaginée de ce championnat d'Europe pour les Français.
Pour avoir échangé avec Martin Mosny dans la foulée, je peux aussi témoigner que Maxime Dupuis n'était pas bien derrière. Il l'a mal vécu, il était au fond du seau. Voir l'équipe de France se faire éliminer comme ça, non, mais c'est ce que tu dis sur ton titre. Tu as eu des montagnes russes et un gros darme derrière.
Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment, j'ai vécu vraiment le pire et le meilleur dans une seule soirée à l'espace d'une heure entre l'arrêt du pénalty de Loris et la suite. Donc c'était quand même, mais ça reste quand même, avec le recul, un excellent souvenir.
Un grand moment, pas un excellent quand même.
Ça reste si, parce que c'est... Enfin, je veux si dire, tu vas au-delà du résultat,
t'as
l'émotion.
Le lendemain, t'aurais pas dit ça.
Oui, mais tu sais, moi, je prends du recul.
Oui, bien sûr. Bon, allez, avançons un peu dans l'année. On a parlé de tennis, on a parlé de foot. On va se pencher sur les Jeux Olympiques, parce que quand même, ça a été l'année de Tokyo 2021. Cyril, tu as choisi, toi, la compétition par équipe de judo que la France a remportée un certain 31 juillet.
Ouais, alors on aurait pu choisir bien d'autres moments en judo parce que le judo nous a apporté son lot d'émotions fortes pendant ces JO. Mais personnellement, j'ai un attachement particulier aux compétitions par équipe. C'est des formats qu'on fait beaucoup quand on est jeune et qu'on fait du judo. C'est des tournois.
Tu peux dire que tu es un judoka, tu peux le dire.
J'en ai fait pendant 9 ans exactement et ça a toujours été mes compétitions favorites parce que je n'étais pas forcément très bon en individuel, mais je me marrais bien avec les copains. Du coup, retrouver déjà cet esprit-là pendant les JO, je trouvais ça très sympa. Et puis, le scénario de la journée était assez dingue, quoi. Si on se souvient bien, avant même de parler de la finale et du titre face au Japon, il y a ce quart de finale où les Bleus sont à deux doigts de l'élimination. Et il y a Margot Pino qui sort un hippon au Golden Score un peu sorti de nulle part. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, ils sont passés à ça de l'élimination, c'est passé sur un fil. Et puis, il y a cette finale où là, il y a le décorum parfait. On est dans une salle mythique. On est face au Japon. Il y a des champions olympiques un peu partout. Et puis, il y a ce dernier combat. Donc, voilà, il y a le décorum, il y a ce qui se passe et il y a le dernier combat. Et moi, j'ai encore des frissons quand je repense à ce moment parce que il y a un commentaire qui s'accompagne de l'image. C'est chez nous Fred Le Canut qui commente. Et bah, les mots qu'il dit à ce moment-là, au moment où Léonie Cizik gagne le combat, m'ont beaucoup touché, tout simplement. Je pense que ça fait aussi partie de l'imaginaire collectif. On se souvient parfois tous des courses commentées par Patrick Montel, notamment. Voilà, c'est des choses comme ça. Bah, pour moi, ce moment-là a été marquant. Et bah, voir ces gars-là champions olympiques avec tout ce qu'ils incarnaient, voilà, ça m'a foutu les poils, tout simplement. Et j'ai pas eu d'autres moments aussi hauts émotionnellement pendant ces JO et pendant tout le reste de l'année.
Ouais, on se rappelle de ces images fortes, même de quand Teddy Riner sort du tatami et qu'il prend avec ses mains, il prend la tête de Sarah Léonie Cizik pour lui dire « Vas-y, c'est à toi maintenant, c'est à toi d'aller nous apporter le point manquant ». C'est vrai que c'était un grand moment. Et comme tu le dis, le fait que cette compétition soit au programme olympique, c'était la première fois, hein, y avait une nouveauté. Et effectivement, tu aurais pu citer la victoire de Clarisse avec Benyenou, tu aurais pu citer d'autres. Mais c'est vrai que là, il y avait ce côté, et je suis assez d'accord avec toi, le côté équipe. Il y a eu une espèce d'émotion qui est sortie de tout ça. Et il y a une autre image qui me revient, c'est quand Teddy Riner, il fait tomber aussi Clarisse à la fin, il la porte et puis il la lâche et elle tombe là devant lui. Voilà, grand moment. Et puis comme tu dis, ouais, Fred Le Canut qui nous avait fait vibrer aussi sur ce team event. Monsieur le judo, c'est aussi un...
Moi, vraiment, l'une des images qui me reste des Jeux, c'est ce que tu viens de dire, c'est l'image de justement Teddy Riner qui porte Clarisse Avigneau et qui l'a fait tomber. Après, je crois qu'il en parle et il dit bah, il ne se souvient pas de ça. Et justement, c'est ce qu'a très bien dit Cyril, c'est ce côté collectif. On a l'habitude de voir ces champions, notamment Teddy Riner, s'imposer individuellement et avoir ce... C'est toujours particulier, je trouve, un champion qui gagne seul. Et justement, quand il peut gagner en collectif, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est ce qu'a très bien dit Cyril. Moi, c'est un de mes beaux souvenirs, cette joie de Teddy Riner qui va chercher une médaille d'or en plus grâce au collectif.
Et c'était la première fois qu'il y avait un team event au jeu. Ça arrive souvent au championnat du monde, mais Clarisse Agbeninou nous en a parlé. Elle disait que c'était évidemment qu'ils ont l'habitude de le faire dans d'autres compétitions. Mais les Jeux Olympiques, ils mettent tellement de cœur et de sueur dans la préparation qu'une fois que vous avez fini votre épreuve individuelle, et notamment pour elle qui était championne olympique et qui était vraiment vidée mentalement après ça, c'était très compliqué de se remobiliser et d'arriver à être performant. Et c'est justement ce côté collectif. C'est-à-dire que Clarisse Agbeninou explique qu'elle aurait été incapable de refaire une compétition indiv, même dans un tournoi de moindre niveau, 3-4 jours après. Ça aurait été impossible. Et là, elle n'avait pas fait le quart de finale, d'ailleurs, donc elle a failli ne pas combattre du tout dans ce team event. Et là, c'est vraiment ce côté groupe qui lui a permis de se mettre dedans, de retrouver une autre forme d'adrénaline et d'être porté par cet esprit collectif qui est toujours particulier dans un sport individuel.
Et puis,
Je disais, ce qui m'a marqué, c'est que pour ma part, j'ai une fibre patriotique proche du néant. Donc, j'ai une certaine facilité à prendre de la distance sur les événements. Et là, je me suis surpris à ne pas avoir cette distance, à être emporté par la magie de l'instant. J'avais l'impression que j'étais avec eux, avec elles, que je combattais. C'est un sentiment que je ressens très rarement et qui n'est pas du simple fait d'une nationalité. Je pratiquais, entre guillemets, je poussais, j'étais sur le tatami avec eux et ça m'a agréablement surpris. J'étais complètement emporté aussi par l'instant.
Louis ?
Non, mais ben justement, c'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Ce qui permettait d'avoir cette proximité avec tous les sportifs, tous les judokas à ce moment-là, c'est que dans la manière dont c'était retransmis, on les voyait, l'équipe, tous derrière au moment il y avait le combat, et en arrière-plan, on voyait l'équipe qui vivait. C'était marrant de voir ces champions qu'on a tous vus gagner en individuel, etc., être les premiers supporters d'un membre de leur équipe. ça donnait vraiment une proximité de, ouais, en fait, d'habitude, on les voit contenir tout quand ils sont sur le tatami, et là, ils se lâchaient, et c'était, ça, je pense que ça a joué grandement sur l'espèce d'engouement qu'il y a eu sur cette épreuve par équipe.
Autre sport dans ces Jeux Olympiques, on avance de quelques jours, le 3 août, on passe en deuxième semaine, c'est la semaine de l'athlétisme. Et là, Simon, tu as choisi de nous parler de Carsten Warholm, en finale du 400 mètres haies, qui réalise quelque chose d'extraordinaire, là, en n'ayant pas peur des mots, avec un chrono, un deuxième qualificatif, je vais dire stratosphérique, puisqu'il abaisse la marque de 8 dixièmes pour établir un nouveau record du monde à 45,94. Incroyable, quoi.
Ouais, alors déjà, il y a l'aspect mathématique, comme tu le dis, avant de revenir sur le contexte que j'évoquerai dans la foulée. On peut poser une question déjà pour essayer de comprendre à quel point c'est fou de faire une telle performance. À votre avis, quel est le temps du champion de France en titre sur 400 mètres sans les haies ?
Alors, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il aurait été champion de France sur plat.
Voilà, vous voyez où je voulais en venir. Il a fait, c'est Gilles Biron, 45-99. Donc, Carsten Warholm, il fait un 400 mètres très honnête, tout court, entre guillemets, sauf que lui, il y a des haies sur le chemin. Tu parlais aussi des 76 centièmes qui sont rabotés à son propre record, qu'il avait battu à Oslo avant les Jeux Olympiques, mais qui datait de 1992. Il y a quelque chose de fou dans cette performance, c'est que c'est une épreuve où on a longtemps parlé en tout cas de la barre des 47 secondes sur cette épreuve, et lui c'est la barre des 46 secondes qui casse. Donc déjà, après avoir toute cette tonne de chiffres et de nombres qui nous tombent dessus, rien que ça, entre guillemets, ça suffit à en faire un grand moment. Et puis il y a aussi le contexte, on parlait tout à l'heure de l'horaire, de ce qui peut faire que c'est particulièrement marquant pour nous. Avec le décalage horaire, nous, c'était à 5h20 en France. Donc, ça contribue aussi à rendre le moment mémorable, inoubliable. Est-ce qu'on dort ? Est-ce qu'on met le réveil à 5h15, etc. Ça permet de pas oublier ces moments-là. Et puis, en gros, il y a des moments d'éternité qui nous tombent dessus de manière inattendue. Et à contrario, il y en a dont on attend beaucoup, déjà. Comme on utilise parfois la phrase « je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu », là, c'était tout l'inverse, en fait. J'avais l'impression de m'attendre à tout et j'ai quand même été subjugué.
C'est beau.
Et ce qui est fort, parce que Simon, il parlait de l'horaire, c'est que ça faisait partie, des trois finales qui avaient été décalées en matinée pour que ça aille en prime time et à la télé américaine. Et c'était évidemment sûrement la course la plus attendue des JO en athlée. Et comme tu dis, on s'attend souvent à des choses, on espère, il y a des promesses, mais il arrive qu'on soit déçu. Et là, on est au-delà de la promesse, parce qu'il y a un truc qui m'a marqué aussi, on parlait des commentaires tout à l'heure, si vous écoutez Stéphane Caristan, quand vous vous rendez compte qu'un record du monde est impressionnant, c'est quand vous vous demandez si le chrono n'est pas pété. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est l'impression qu'on a, parce que tu l'as dit, le record, il date de 1992, Kevin Young, c'est la barre, la fameuse 46-78, il y a la barre des 47, c'est compliqué d'aller en dessous. On finit par le battre, enfin Carsten Warholm finit par le battre cet été, et là il met une claque monumentale. Il faut raconter le tour de piste aussi, c'est-à-dire qu'il part très vite, il finit très vite, mais en plus il a de la chance, c'est Craig Benjamin dans son sillage est très très fort et qui va courir quand même en 46-17. En fait, tout le podium d'ailleurs est sous l'ancien record du monde de Young, et voilà l'impression qu'on a quand il franchit la ligne d'arrivée, c'est de se dire « non, il y a un problème ». Parce que j'ai bien vu, c'est 45-94. Logiquement, on pourrait plus s'attendre à avoir 46-94. Et là, il a réussi la course du siècle. Voilà, c'est un des records du monde, une des claques les plus incroyables qui a été donnée à un record dans toute l'histoire de l'athlète.
Ouais, Stéphane Caristan, j'ai même l'impression que lui aussi, hein, quand tu vois ses yeux, il déchire son dossard. Il y croit presque pas non plus, il a du mal à...
Et dernier truc, il faut le rappeler, c'est des jeux à huis clos, donc on ne peut même pas dire qu'il est poussé par le public. Des fois, ça aide, il y a quand même dans cette ambiance olympique, non, il n'y a personne dans la tribune. Il fait globalement la course parfaite avec non pas le lièvre parfait, puisqu'il est derrière, dans son sillage, un couloir derrière lui, mais avec le type qui va le pousser au maximum pour battre ça, et on a un moment complètement délirant, et un record qui va peut-être tenir, on ne sait pas, on ne sait jamais, mais s'il tenait 20-30 ans, ce ne serait pas étonnant.
Et le fait que ce soit serré aussi, ça change la perception qu'on peut avoir de la course, parce que là, on avait un peu annoncé le record. Enfin, on s'attendait à ce qui tombe. Et parfois, dans les courses comme ça, où c'est annoncé, où il y a une superstar qui prend les devants, si l'athlète en question a une dizaine de mètres d'avance, on est les yeux rivés sur le chrono pendant les 10-15 dernières secondes. Donc, on n'est pas surpris, même si on est surpris de fait parce que c'est moins de 46 secondes. On voit les secondes qui s'égrènent, on voit la ligne qui se rapproche. Là, moi, j'avais les yeux rivés sur le duel, en fait. Jusqu'à la dernière haie, je me demandais qui allait le mieux la franchir, si Ray Benjamin, donc en 46-17, allait être champion olympique ou pas. Donc, en fait, je regarde le chrono durant les deux dernières secondes de la course. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien perdu du moment sportif. Et ça m'a fait être d'autant plus choqué par ce que j'ai vu s'afficher.
Et petite dernière chose là-dessus, on a beaucoup parlé cet été, au printemps, du matériel, des chaussures qui faisaient courir vite, que beaucoup ont utilisé. Pour le coup, lui n'a pas utilisé les chaussures vraiment à la performance absolue. Alors évidemment, il avait des lames de carbone sous ses chaussures, mais il a expliqué qu'il ne voulait pas dénaturer son sport. C'est-à-dire qu'il a profité de la technologie, mais qu'il n'a pas voulu aller trop loin. Alors après, je vous laisse prendre ça comme vous voulez, parce qu'il n'était pas non plus sur des chaussures normales, classiques à l'ancienne. Mais n'empêche qu'il y a ce côté un peu louable, on va dire, dans sa démarche, qui fait qu'une démarche qui lui a permis d'aller très vite pour le coup.
Il se pose d'ailleurs comme une personne, il n'arrête pas de un porte-parole, justement, il ne veut pas que ça aille trop loin dans cette histoire de chaussures. Il le dit régulièrement depuis quelques temps, même si c'est ce que tu dis, il avait quand même une fibre de carbone pour cette course.
Oui. Juste pour finir, c'est important de rappeler que sur cette épreuve du 400 et le lendemain, il y a aussi le record du monde féminin qui tombe avec Sydney McLaughlin. Bon, on en parle un peu moins et c'est un peu notre responsabilité aussi, parce qu'il n'y a pas cette barre des 46 secondes qu'il y a pour Warhol, mais s'il y a trois records du monde qui sont battus en athlée pendant les JO, si je ne me trompe pas, en triple saut féminin et sur les deux 400 mètres haies, masculin avec Warhol et féminin avec McLaughlin le lendemain. Bon, c'est important de le préciser aussi.
Exactement, tu as bien raison. Un autre sport, évidemment, des grands moments, il y en a eu pendant les Jeux. Hein. Glenn, toi, tu as choisi un sport que tu aimes particulièrement, que tu as pratiqué longtemps dans ta jeunesse, disons-le, clairement, le basket.
Exactement.
Et là on parle même pas du match, on parle du contre de Batum. Ça suffit à se remémorer ce moment.
On parle d'un geste, c'est ce que tu dis, parce qu'en plus, c'est marrant, on prend un sport collectif. On aurait pu parler beaucoup d'autres sports collectifs, justement, pendant ces Jeux, avec les médailles de nos handballeurs, des volleyeurs, etc. Mais c'est vrai que ce moment, pour moi, c'est mon souvenir absolu, j'allais dire, de l'année. Il faut remettre un peu dans le contexte. On joue la Slovénie avec un prodige qui s'appelle Luka Doncic. Les Bleus font un tournoi jusque-là qui est hyper solide. Ils sont sur leur lancée, tout se passe bien. Et puis, ça commence un peu à se compliquer. On a 10 points d'avance. Et là, au fur et à mesure, ça se complique. Les Slovènes reviennent, grignotent. Et dans le moment chaud, le money time, on sent que ça tourne un peu en faveur des Slovènes. Il y a notamment d'abord un ballon perdu sur une faute offensive d'Evan Fournier. Et après, on prend un 3 points. Du coup, les Français les Slovènes reviennent juste à un petit point, juste derrière. Et là, la balle est pour les Français. Nando De Colo rate un shoot. Juste derrière, évidemment, l'action est l'action du match, on va dire. Il y a le ballon qui est dans les mains de Luka Doncic, évidemment. On sait Nicolas Batum défend sur lui. Et c'est important, Nicolas Batum, il en parlera beaucoup après, mais il avait un duel très clé, je vais dire. Quelques mois avant, les Clippers jouent Dallas au premier tour des playoffs, et donc il a l'habitude de jouer, il défend souvent sur Luka Doncic, il connaît tout ce que les différents systèmes annoncés pour lui, et voilà, il défend sur lui. Là, il y a évidemment les Slovènes qui mettent un système en place. Rudy Gobert, il y a un switch, Rudy Gobert se retrouve à défendre sur Luka Doncic, c'est évidemment ce que veulent les Slovènes, mais à ce moment-là, Batum, qui connaît, défend, reste un peu sur Luka Doncic. Luka Doncic est à ce moment-là obligé de passer le ballon à un de ses coéquipiers qui s'appelle Prepelic, qui est un arrière de Valence. Et là, il va au cercle. Nicolas Batum a un peu de retard. Et là, il se passe un truc magnifique, c'est-à-dire qu'il s'élève dans les airs et Nicolas Batum place un contre monstrueux, historique, légendaire, qui envoie les Français en finale des Jeux Olympiques 21 ans après. Évidemment, les JO 2000 qui sont restés dans les mémoires de tout amateur de basket et tout amateur des sports en France. C'est un contre, ce que je trouve génial, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a l'habitude de mettre souvent en avant les actions offensives, évidemment, notamment en basket, de parler de stats, etc. Et là, c'est un geste qui compte, mais c'est un geste défensif d'un joueur
qui a une histoire avec les Bleus fantastique, qui est le capitaine du groupe. Voilà, tout est beau, je trouve. C'est un symbole très fort, tout est beau dans ce contre. Voilà, c'est ce qui m'a marqué, c'est le geste pour moi de cette année 2021.
Ce qui est fou sur cette action, c'est quand on voit Doncic partir côté gauche, il est dans son spot, sur son spot. C'est le spot avec les Mavericks. On se dit, bon, bah, il va balancer à 3 points, il va faire la même qu'il a fait contre. Je crois qu'il a fait ça contre les Clippers en playoff l'année dernière, ça avait fonctionné. On se dit, ça va partir. Et comme tu dis, Glenn, il y a le switch. Et finalement, là, alors, je parlais de France Suisse, alors l'ambivalence des sentiments, bah là, cette action, c'est l'ambivalence des sentiments en 2 secondes. C'est-à-dire que quand Prepelic a pris un pas d'avance, on se dit, c'est cuit.
C'est fini. Ouais.
C'est cuit. On va pas aller en finale. Et c'est des grosses boules parce que justement, l'équipe de France était devant. Elle a fini par tout gâcher. Et puis. Voilà, il y a ce compte qui vient de nulle part. C'est aussi ce qui fait la beauté du basket, qui est pour le coup un sport parfait pour ça, les gestes au buzzer, ces choses-là. Comme tu disais, Glenn, d'habitude, c'est un shoot. Ben non, là, c'est pas un shoot. Ça aurait pu être le shoot de Doncic qui nous aurait écrasé. Ben là, c'est le compte de Batum qui vient sauver la patrie et l'envoyer en finale olympique.
Puis des fins de match mal maîtrisées des Bleus contre la Grèce, etc. Il y en a eu quelques-uns ces dernières années. On a été suffisamment traumatisés par ça. Là, voilà, tout est. C'est ce que dit Maxime, c'est vraiment le geste fort.
C'est marrant parce que ce que vous dites, il y aurait pu avoir effectivement un shoot de Doncic ou autre. C'est un mauvais choix des Slovènes d'aller comme ça au panier, ou c'est le plus simple normalement de marquer comme ça. Ça joue un dixième de seconde.
Leur choix est bon parce que ce qui est compliqué, c'est que normalement, évidemment, eux, ils attendent à ce que ce soit Doncic qui prenne le ballon et qui prenne les choses en main. Ce que tout le monde attend en fait. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne défense, qu'il faut dire. Il y a une très très bonne défense des Bleus qui pousse Doncic à lâcher le ballon parce que en fait, il se retrouve avec Rudy Gobert face à lui. Normalement, c'est un avantage parce que Rudy Gobert est beaucoup plus grand, donc plus lent. Mais Rudy Gobert, c'est aussi un excellent défenseur. C'est le meilleur défenseur de la NBA. Et en fait, la chance qu'ont les Bleus, c'est que justement, il est capable de défendre sur Doncic de loin comme ça. Donc, il force en fait. Et comme Batum reste, c'est les Bleus en fait qui forcent les Slovènes à faire un autre choix. Et au final, aller au panier de la part des Slovènes à -1, c'est plutôt logique. Parce qu'en plus, ce qui est dingue, c'est qu'en plus, l'action de Batum, elle est propre. C'est-à-dire qu'il y a un risque, il envoie, s'il fait faute, il envoie le Slovène sur la ligne. Et comme c'est quand même quelqu'un d'assez régulier au lancer franc, Prepelic avec Valence. Voilà, c'est très risqué. Donc non, le choix des Slovènes est bon. Malheureusement pour eux, et tant mieux pour cette action, justement, il est en retard, Batum. Mais il le dit, même lui, c'est marrant, il en a parlé, je crois, dans la First Team, il n'y a pas longtemps. Il est persuadé qu'il va réussir dès le début de l'action, qu'il va aller mettre ce compte, il le voit. C'est assez dingue. Et c'est vrai que, moi, c'est ce que dit Maxime, quand il part en dribble, le Slovène, je suis persuadé que c'est fini, c'est terminé.
On a tous eu cette idée.
Dans l'émission que tu évoques, Glenn, il avait dit aussi, bon, c'est facile de le dire maintenant en vainqueur, mais il disait, quand je vois Doncic à la balle, je me dis, cool, quoi. Ça va être sympa, ça va être fun, cette dernière action. Donc, il le dit maintenant, si battu sur le premier pas, il rate son contre, il l'aurait peut-être présenté de manière différente, mais c'est quelque chose d'assez fort sur l'état d'esprit et surtout sur l'état d'esprit d'un joueur en pleine renaissance aussi. Parce que quand on repense à la vision que le monde du basket avait de Batum l'année précédente, où il était assorti d'un très gros contrat chez les Hornets. Il ne produisait plus beaucoup dans une équipe qui était en reconstruction. C'est aussi cette année, outre ce contre qui, bien sûr, pour le grand public, écrase tout, l'année de la renaissance pour Batum et d'un nouveau départ dans sa carrière.
Est-ce qu'il y a d'autres... Merci les Clippers qui nous l'ont lancé et qui nous ont permis aux Français de défendre sur ce système propre à Doncic.
Est-ce qu'il y a d'autres moments, messieurs, dans les jeux, vous avez envie d'évoquer? Parce qu'il y en a eu des grands moments, des victoires françaises.
Ouais, mais pas que. Un moment, déjà, au-delà du basket et du geste de Batum, il y a quelque chose à mon avis qu'on ne peut pas ne pas rappeler, c'est que les Sporco de salle, on va dire notamment le fameux BHV, basket hand volley, a quasiment sauvé les jeux de la délégation française. 5 équipes engagées, 5 médailles, 3 médailles d'or. C'est un bilan qui est incroyable, inespéré, historique, qui, à mon avis, dans 30, 40, 50 ans, quand on reverra le bilan de la France aux Jeux de Tokyo, ça paraîtra hallucinant de se dire qu'on a eu 2 médailles d'or en hand, 1 en volley. Et je voulais dire notamment un petit mot sur les volleyeurs, qui sont un peu souvent oubliés parce que le hand français est au top niveau depuis maintenant 30 ans chez les garçons, depuis plus de 20 ans chez les filles. Le basket est un sport plus médiatisé en France, notamment grâce à la NBA ou l'équipe de France, que l'est le volley. Et le volley, il est toujours un petit peu oublié. Et là, dans leur malheur, on a eu des problèmes de riches. Ils ont été champions olympiques quasiment simultanément, à quelques minutes près, avec les, je crois que c'était les handballeurs. Et encore, s'ils avaient gagné en 4-7, ça se serait fini quasiment à la seconde près. Donc finalement, en gagnant au tie-break, ils ont eu une bonne idée, ils se sont fait peur, mais ça leur a permis d'avoir que plus de gens peut-être voient leur fin de match. Et c'est un groupe aussi qui est très attachant, qui est très fort, avec un entraîneur emblématique, avec des joueurs emblématiques, avec une star comme Erwin Ngapet. Et ce groupe-là méritait vraiment aussi d'être mis en lumière, et ce qu'ils ont fait pendant ces Jeux, c'était extraordinaire, et eux sont allés au bout en plus.
Moi, j'ai un autre moment qui m'a marqué, alors qui n'est pas français, qui est italien, c'est évidemment le saut en hauteur et le 100 mètres. Imaginez un peu d'avoir deux athlètes français qui, en un quart d'heure, remportent le saut en hauteur et le 100 mètres masculin. C'est ce que les Italiens ont vécu. L'Italie n'est pas une nation du sprint, voilà, n'a jamais été. Elle l'est devenue avec Marcel Jacobs. Et il y a eu ce quart d'heure un peu surréaliste où Barshim et Tamberi se partagent le titre à la hauteur. Alors, je sais qu'il y en a que ça a gêné. Moi, ça ne me gêne pas si ça arrive une fois, mais pas tout le temps, parce qu'à un moment, ce n'est pas l'école des fans, on ne se partage pas les médailles. Mais n'empêche qu'il y a cette joie complètement dingue de Tamberi, en plus qu'il y a une histoire particulière, qui est là à fêter son titre à la hauteur, qui est complètement extatique sur la piste de Tokyo. Et il est quasiment en bout de piste quand Marcel Jacobs vient gagner le 100 mètres et il l'attrape bras dans les bras. C'est un moment complètement fou et qui est en plus à mettre en perspective de cet été italien qui était sûrement l'été des étés pour eux.
Et un dernier mot.
Vas-y.
Tu parlais de ce moment-là, Maxime, très particulier. Pour moi, il y en a eu un, si on sort du côté franco-français, qui est peut-être le plus incroyable des Jeux, et un truc même à l'échelle de l'histoire des Jeux, c'est un frère et une sœur qui ont été sacrés champions olympiques au même endroit, à quelques minutes intervalle, c'est les AB en judo. Et quand en plus vous êtes japonais, que vous faites du judo, et que c'est au Budokan, dans le temple du judo japonais, et que vous êtes frère et sœur, et que vous êtes sacré champion olympique dans ces conditions-là, à quelques minutes d'intervalle, je ne sais pas, imaginez la même chose pour des sportifs français dans le sport le plus emblématique du sport français et à domicile. C'est vraiment un truc. Vous faites ça dans un scénario à Hollywood, on vous traite de mytho.
On passe à un autre sport. Louis, tu as décidé de défendre un match de rugby en cette fin d'année, le 20 novembre. La France qui reçoit les All Blacks au Stade de France. On sent que quelque chose est possible, que l'exploit est possible, et les Français battent la Nouvelle-Zélande sur le score de 40-25.
Ouais, bah c'est tout simplement le plus gros écart qu'ils ont jamais mis dans l'histoire à la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et c'est aussi un match avec beaucoup de montagnes russes, comme Maxime en parlait tout à l'heure avec France-Suisse en football. Là, c'est des montagnes russes qui se terminent bien. Et bah, justement, j'ai encore cité mes confrères, mais Laurent parlait du contexte indissociable à l'exploit. Là, le contexte, il est super important. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Blacks qui ont perdu une semaine avant face à l'Irlande. C'est considéré comme un accident. Voilà. Ils sont remontés comme des coucous face à la France qui, elle, de son côté, sort d'une tournée où il y a deux matchs face à l'Argentine et la Géorgie où ça gagne, mais ce n'est pas des adversaires. On attend vraiment ce match-là en point de mire. Et puis, c'est la génération dorée de la France avec, sous l'égide de Fabien Galthié. Ça fait 2 ans qu'on parle d'eux, qu'on attend, mais il n'y a pas de victoire dans le tournoi de destination, il n'y a pas ce match référence encore, et donc tout est réuni pour que ça marche devant 80 000 spectateurs, une ambiance une ambiance de folie. Et dès le début, les Bleus, ils asphyxient la Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est en dehors de la performance qui est exceptionnelle, c'était sur le plan sportif, cette première mi-temps et ce début de match, c'est assez incroyable. Il y a un premier essai dans les 2 premières minutes de jeu là, qui donne bien le ton, et à la mi-temps, il y a 24-6. Pour la France, c'est moins 18, c'est le plus gros écart dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande au rugby à la mi-temps. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Et en dehors de cette mi-temps, il y a la Nouvelle-Zélande revient petit à petit en deuxième mi-temps. Et comme dans tout grand moment de sport, il y a le geste qui change tout et qui marque la symbolique. C'est cette relance à la 60e minute de Ntamack qui récupère le ballon dans son propre en but. Et qui, avec deux relais, va faire les 3/4 du terrain et atterrit presque au niveau des 22 mètres adverses. Ça ne donne pas un essai, mais ça donne une pénalité qui refait passer la France à +5, parce qu'à ce moment-là, il n'y a que 2 points d'écart. Et c'est l'action qui change le match et qui a fait le tour du monde. Voilà, ça a été relayé un peu partout. Il y a le commentateur anglais, la scène, au moment où il voit ça, il fait mais où est-ce qu'il va, Ntamack ? Voilà, c'est devenu un peu culte. Et c'est cette action-là qui fait le tour du monde et qui fait rentrer les Bleus dans cette dimension que voilà, ils sont capables de battre les All Blacks. Enfin, à ce moment-là, on reste sur 14 défaites consécutives face à la Nouvelle-Zélande. Ça fait 12 ans que la France n'a pas battu la Nouvelle-Zélande. Là, c'est à domicile, c'est avec 4 essais, c'est avec la manière. Et pourquoi c'est le grand moment pour moi, c'est qu'en dehors de la performance, du symbole, tu vas la meilleure équipe du monde à domicile, le côté historique, tu as du point de vue du jeu. Voilà, je pense que c'est la première mi-temps de l'équipe de France, c'est la meilleure première mi-temps de l'ère Galtier, voire de bien plus loin, parce que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu une équipe de France jouer aussi bien. Et puis, il y a l'aspect émotionnel. Voilà, là où les interviews de fin de match, des fois, on est habitué un peu à de la langue de bois. Là, on a les larmes de Pea Tomovaka, le néo-calédonien qui marque deux essais, face aux Néerlandais. Il y a vraiment cette idée que ce groupe-là est capable de faire quelque chose, de battre les meilleures équipes du monde. Et même, on sent dans la célébration de l'exploit qu'ils sont pas rassasiés. Alors que c'est un exploit colossal, ils ne le vivent pas on est arrivé. Quoi. C'est vraiment qu'une étape en vue du Mondial 2023. Et un peu à la manière de quand l'équipe de France de basket au JO bat Team USA en phase de poule et qu'ils sont tous concentrés à dire mais c'est vous parlez d'exploit, mais nous on est là. Et bien là, c'est un peu pareil. Alors que c'est le plus grand exploit de l'équipe de France sur les dernières années en rugby, là ils sont là, c'est que le début du chemin, on n'a pas fini et ça rend le moment encore plus incroyable.
C'est vrai qu'on a vécu un sacré moment et comme tu le dis, c'est qu'une étape. On sent que l'équipe de France ne se satisfait pas de ce match. Alors sur le coup, ils étaient très contents, mais tout de suite dans les discours, c'est une pierre sur le chemin de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France. Et voilà, là on est dans les clous pour essayer d'aller chercher ce premier titre mondial pour l'équipe de France.
Déjà essayer de gagner le tournoi.
Déjà, ça c'est vrai, ça, c'est le deuxième objectif. Un autre moment, messieurs, on n'a pas parlé de Formule 1. Le 12 décembre dernier, il s'est passé quelque chose quand même. Ça a été un des grands moments de l'année, le Grand Prix d'Abu Dhabi, avec le sacre de Max Verstappen. Mais au-delà du sacre, entre l'un, Max Verstappen, et l'autre, Lewis Hamilton, c'est le dénouement de ce Grand Prix qui fait un moment historique de la saison et peut-être même de ces dernières années hein, du championnat du monde de Formule 1. Le championnat s'est joué dans le dernier tour. On rappelle rapidement hein, le pilote Williams, Nicolas Latifi, qui se crash, qui fait intervenir la voiture de sécurité alors que Lewis Hamilton a, on pense, course gagnée, que le Grand Prix va se dérouler, il reste 5-6 tours, normalement, que Lewis Hamilton va décrocher son 8e titre de champion du monde. Et là, Latifi perd le contrôle de sa voiture, se crash, la voiture de sécurité entre en piste. Et là, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a un petit micmac, il y a des décisions qui sont plus ou moins discutables selon si on est pour Red Bull ou pour Mercedes. Finalement, Michael Massey, le décideur hein, sur les Grands Prix de Formule 1, décide de faire rentrer la voiture de sécurité pour un dernier tour de folie, le fameux « let them race », laissez-les courir, pour éviter justement que ce Grand Prix se termine sous régime de safety car. Et là, on a d'un côté Max Verstappen avec des pneus neufs, Lewis Hamilton qui a des pneus usés, voire très usés, et qui, tant bien que mal, essaye de résister, mais c'est mission impossible. Et puis Max Verstappen qui décroche ce premier titre de champion du monde. Ce n'est pas la polémique derrière que j'ai envie de retenir, mais c'est ce fameux dénouement assez incroyable. Et on est obligé de reconnaître que cette saison, c'est l'apothéose. On a senti les choses monter tout au long de la saison en Formule 1. Et puis là, on a le feu d'artifice final, finalement, qu'on attendait. Hein. On va pas se mentir, on l'attendait tous. Moi, c'est un des moments que j'ai envie de retenir dans cette saison de F1. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Maxime, t'avais noté un autre moment aussi, toi, escalade.
Du point de vue du spectacle, c'est formidable ce qu'on a vécu sur le dernier tour. Mais pour faire une métaphore culinaire, j'ai eu l'impression d'aller manger au fast-food, bien repu, et puis après coup, je me sens un peu sale, voilà, tout simplement. Je me dis que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, parce qu'on ne reviendra pas sur le règlement, mais il ne fallait pas laisser passer que 5 voitures, etc. Et finalement, cette course aurait dû se terminer sous le régime de la safety car si tout avait été bien fait, on va dire, dans les règles de l'art. Et je pense qu'Hamilton a perdu ce jour-là un Grand Prix qu'il ne méritait pas de perdre, et que Verstappen a aussi remporté un championnat du monde qui méritait de gagner. Mais moi, ce que je retiens, c'est plus déjà l'année qui est fantastique. Et le moment que j'ai préféré, alors je sais que ce n'est pas le moment le plus positif, mais c'est Monza, voilà, l'accrochage des deux, avec la voiture de Verstappen sur celle d'Hamilton. Alors on va me dire, oui, c'est un accident, oui, c'est dangereux, et oui, mais c'est de la Formule 1. Et heureusement qu'il y a le halo pour le coup, parce que quand on voit l'image de cette roue de Verstappen qui touche le casque d'Hamilton, et ce qui est dingue, et ça va à l'inverse de tout ce qu'on dit sur la F1, c'est-à-dire qu'on a cédé à Netflix, au Drive to Survive, faire du show, du spectacle. Eh ben, il n'y a pas plus hasard que cette journée-là à Monza. C'est-à-dire que normalement, les deux ne doivent jamais se retrouver à la chicane au 26e tour, parce qu'il va se trouver que Verstappen va faire un arrêt de 11 secondes avec un écrou qui est mal accroché, donc il perd beaucoup de temps dans les stands, et que Hamilton, lui aussi, a un arrêt qui dure trop longtemps, il dure 4 secondes, il me semble. Et il se trouve que les deux ressortent en même moment, en même temps, et ça, Netflix ne peut pas l'écrire, ça. Et il se trouve que voilà, et je trouve que la chicane résume parfaitement, cette première chicane résume, j'allais dire, leur duel qui est, je l'espère, parti pour des années à venir. C'est-à-dire qu'on a un petit procès nabis entre deux types qui sont antinomiques, qui n'ont pas le même caractère, qui n'ont qu'un but, c'est de gagner à leur manière chacun. Et cet accrochage, pour moi, il définit, on va dire, cette saison et les années à venir. Et ça reste pour moi le plus gros moment de l'année, même si ce n'est pas un moment positif.
C'est vrai qu'en Formule 1, est-ce que la FIA n'a pas voulu, n'a pas trop regardé Drive to Survive et a voulu scénariser jusqu'au bout sa saison avec ce qui s'est passé dans ce tout dernier Grand Prix?
Ouais, bon, moi, pour moi, il y a de ça. La FIA a cédé un peu au côté spectaculaire, à avoir une fin. Je peux comprendre l'idée d'avoir une fin claire, on va dire, pas derrière voiture sécurité. Mais à un moment, les règles sont les règles.
Dans ce cas-là, tu fais ça à chaque Grand Prix. Puis tu
oui,
fais,
voilà, exactement.
Tu fais un Grand Prix sur un tour.
Il y avait le précédent de Spa qui a été une catastrophe en termes d'image.
Oui, mais
le
tu
Grand
pouvais.
Prix s'est couru uniquement sur voiture de sécurité. Je pense qu'ils voulaient éviter ça à tout prix.
Mais si tu prends dans la morale de cette course-là.
Oui, le Grand Prix, il avait eu lieu à la régulière.
Je suis pas pro Hamilton, je suis pas pour Verstappen. Mais Hamilton méritait de gagner cette course-là. Ah, stratégiquement, oui. Il l'avait gagné. Et tu pouvais aussi, il y avait une autre solution et qui aurait été moins polémique, c'est-à-dire que tu mettais un drapeau rouge, tu leur faisais faire 5 ou 6 derniers tours en pneus rouges. Voilà. Là, il se trouve que, comme l'a dit le brillant Stéphane Vrignot dans Les Fous du Volant, ils ont envoyé Hamilton à l'abattoir, voilà, tout simplement, parce qu'il n'avait aucune chance. Je crois qu'il y avait 40 tours sur ces durs. L'autre avait des pneus plus neufs. C'était certain que c'était terminé. Et ce qui est discutable, c'est d'avoir laissé passer que 5 voitures et de ne pas avoir respecté le fait qu'ils reviennent derrière la file. Parce qu'eux aussi, après tout, que ce qu'ils ne soient pas premiers ou deux, ils luttaient aussi pour quelque chose. Donc, on voit que la FIA, comme le dit Laurent, a cédé aussi à Netflix. Ça fera des belles images. On regardera tous, on sera très contents. Mais
on s'en souviendra.
Mais il y a toujours ce côté un peu particulier.
Mais au-delà du fait de l'avoir envoyé à l'abattoir, ça, on efface en faisant ça quand même 90% du Grand Prix. C'est-à-dire que quasiment 90% de la course n'a servi à rien. Mmh. Je sais pas, c'est comme si en foot, il y a 3-0 à 10 minutes de la fin, puis on vous dit bon, finalement, on reprend à 0-0, puis vous faites une action chacun et puis on voit. Ou en tennis, il y a un mec qui mène 2-7-0, ouais. Et puis on lui dit non, ben finalement, on arrête tout, puis on va faire un tie-break en 3 points. Moi, on a vécu une saison fabuleuse, mais il y a quand même un souci. Là.
Et avec un désavantage pour celui qui menait 2-7-0 ou 3-0.
En plus, ouais. Il va jouer de la main gauche et droite.
Et il faut rappeler que pendant les 5 tours, sous régime de safety car, au début, la décision de Michael Masi est de dire on ne laisse pas dépasser les voitures qui sont intercalées entre Hamilton et Verstappen. Là, on voit que ouais, il reste un tour, on envoie tout pour faire des belles images et un final de feu qui restera dans l'histoire, mais qui laisse quand même un drôle de goût. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas d'être supporter d'Hamilton ou Verstappen, c'est juste que le règlement n'a pas été exactement suivi comme il aurait dû.
Merci messieurs pour ces bons moments revisités ensemble pour cette année 2020. On espère que 2022 nous offrira de beaux moments comme ça. C'est une année paire. On a la chance d'avoir également de bons moments. Il y aura les Jeux Olympiques, il y aura une Coupe du Monde, il y aura des grands chelems, il y aura les Tours de France. Enfin, il y aura plein de belles choses à suivre sur Eurosport. Merci, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Régalez-vous et on se dit à 2022. Salut.
Salut.
Salut. Salut. Salut. Salut à tous.
Thank you. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.